Villiers de l'Isle-Adam, la couronne présidentielle, compte rendu des dernières déterminations prises par les deux chambres réunies en Assemblée nationale à Versailles. L'ordre du jour. Les fortuites circonstances qui ont amené la démission sans cesse à terme, voyez d'ailleurs, de M. le Président de la République française, ayant paru démontrer qu'en dépit de toute prévision, la solidité même de ce mode de gouvernement n'était plus inébranlable, ses représentants ne pouvaient tarder à comprendre qu'une mesure exceptionnelle de sécurité publique devait être prise en toute hâte, à l'effet de paralyser, d'avancer les espoirs et menées possibles des prétendants aux aguets des péripéties de la crise actuelle. L'occasion solennelle du Congrès n'était pas celle que l'on dut laisser échapper, et voici la question préalable qu'il s'agissait d'envisager froidement. Premièrement, d'une part, les princes, par leurs incessants manifestes, se sont acquis, on peut le dire, un certain renom de réformateurs libéraux, progressistes, aux visées à la fois fermes et sages, éclairées par de persévérantes études. On les sait doués personnellement du courage traditionnel chez les leurs. Chacun d'eux semblerait donc l'idéal du prince moderne, acceptable. Néanmoins, le Parti républicain persiste à se méfier officiellement de leur sincérité. Deuxièmement, d'autre part, il est non moins constant que, dès son érection à la présidence, M. Jules Grévy non seulement avait fait preuve, lui, de toutes ses qualités, mais encore qu'il y voyait la clairvoyance de l'âge, une pratique affermie par l'expérience et sa capacité de magistrat bien trituré aux affaires, vertu qui, sur la foi d'un proteste quelconque, n'ont pu conjurer son éviction. La situation politique se trouvant donc, pour tout président futur, sauf de futiles questions de domestique, exactement la même que lors de l'avènement de M. Grévy au pouvoir exécutif, car nul homme en France n'oserait en vérité s'autoriser d'une auréole, d'un halo même, de plus parfaite honorabilité que celle qui est toujours et que gardera probablement dans l'histoire M. Jules Grévy. Quel serait donc, au point de vue d'une garantie supérieure de stabilité, le surplus, la plus-value dans la quantité, quotité de leur rapport qu'offriraient à la nation les prétendants, au cas bien entendu où la France pourrait juger opportun de s'en préoccuper. La couronne, ou plutôt son ombre, puisque les diamants même en sont liquidés. Certes, aux yeux d'une énorme minorité, la couronne de France est encore loin d'être un non-valeur. Elle pèse son poids, et si léger que d'aucuns le supposent, il pourrait encore suffire, hélas, à faire pencher bientôt peut-être l'un des plateaux de la balance. Eh bien, pour obvier aux sentimentales exigences de ceux qui tiennent encore pour important ce hochet symbolique, une proposition des plus anormales, rédigée sous forme d'hypothèse loyale, en vue d'en finir d'une façon radicale avec les factions qui nous divisent, a été déposée sur le bureau des deux chambres. Voici cette proposition. Si, pour forcer l'union, tant désiré des partis, et maintenir l'exubérante prospérité publique, l'Assemblée nationale osait décréter simplement, une bonne fois, d'annexer, avec une liste civile convenable, cette même couronne, à titre d'attribut purement honorifique, aux fonctions présidentielles. Ce serait peut-être l'on ne sait quoi d'indispensable, que tous désirent obscurément, pour, s'il se peut, relustrer le prestige un peu terni de la présidence. Si par voie de suffrage universel, la transmission de ce bandeau civique, tacitement héréditaire aussi, de président à président, était à l'avenir affectée à leur charge, si la vue de cet objet inoffensif sur la forme duquel nos derniers maniaques du passé se plairaient à reposer leur regard, leur était offerte de temps à autre sur les fronts provisoires de nos chefs d'État. Si en un mot, le président de demain, dans le but de faire face aux nécessités éventuelles et pour parer au salut presque compromis de la République, était mis en demeure d'accéder, pour l'exemple, à cette opportune concession, jusqu'à s'en assimiler par esprit de conciliation le convenu prestige, de même qu'au nom de la Constitution, il accepterait de s'assimiler tous les autres insignes et privilèges afférents au royal ou dictatorial pouvoir, ne serait-ce pas alors évident que les princes, pour libéraux, radicaux, républicains et progressistes qu'ils puissent être, n'ayant plus rien à offrir que l'on eût déjà, se verraient désormais comme prétendants sans raison d'être. Cette pareille affirmation devait sembler de prime abord à ce point étrange que son rejet sans discussion et à peine accompagné d'une vague sourire s'annonçait comme tout indiqué. C'est en France le sort des plus pratiques, des plus sérieuses initiatives, jusqu'à ce que la réalisation, puis l'habitude, en ait consacré l'autorité. Autant eût valu proposer de peigner le cheval de bronze. Point donc ne fûmes-nous surpris de la silencieuse stupeur au milieu de laquelle fut notifiée cette idée. Non plus que du presque immédiat et sympathique acquiescement que nos mandataires lui ont témoigné, après quelques réflexions, par ces touchants bravos dont retentissent encore les voûtes versaillaises. Si habitués que nous soyons aux fantastiques, surtout en nos congrès, notamment depuis la fameuse discussion du quorum, au début de laquelle députés et sénateurs, d'après le compte-rendu officiel, s'abordèrent en imitant des cris d'animaux. La réelle valeur de cette combinaison devait, en effet, saisir bien vite les esprits, car malgré l'apparence, le convenu même de son absurdité, c'est-à-dire de sa nouveauté, c'était bien la motion la plus pratiquement sage, on en conviendra, que nos délégués eussent proposé depuis longtemps. Le projet de loi, un texte de projet de loi, fut donc élaboré sur le champ. Le voici dans toute son officielle rigidité. Le chef de l'État devra porter désormais comme un signe de la judicature suprême l'ornement de tête communément appelé diadème ou couronne, avec le titre de prince de l'ordre. Deuxièmement, il aura la faculté de ne ceindre cet emblème exceptionnel que dans les grandes solennités nationales et publiques. Article troisième, la présente loi, sous réserve de l'acceptation de l'intéressé, sera promulguée dans les 3 jours qui seront son adoption par les 2 chambres. Chose vraiment imprévue, les membres de la droite se sont montrés les plus zélés, les plus éloquents même, qu'on va le voir, en faveur de ce projet, qui cependant semble si bien fait pour anéantir leurs dernières espérances. L'extrême gauche a rivalisé d'émulation avec eux, de sorte que le centre et la majorité, qui d'abord avaient mis en avant la proposition, ont fini par devenir hostiles au projet qu'ils avaient eux-mêmes présenté, ce qui s'explique par le besoin de contradiction qui fait le fond de la nature humaine. Peut-être bien aussi grâce à une soudaine méfiance. La loi, malgré eux, a passé, enlevant quand même leur suffrage. Mais lorsqu'il s'est agi de procéder à l'élection d'un nouveau chef de l'État, au cas de la définitive démission de M. Grévy, un incident des plus bizarres s'est produit. Se couvrant de raisons troubles, évasives, pusillanimes, oiseuses même, à l'estimé du Congrès, chacun des candidats à la présidence a cru devoir décliner l'honneur d'être le premier à se laisser ceindre le front du libéral diadème. Sans se prononcer contre cette mesure, aucun d'eux n'a paru tenir à prêcher l'exemple, à servir en un mot de précédent pour ses successeurs. L'Assemblée se trouvait donc prise en ce dilemme. Ou renoncer à cet utile et séduisant projet de loi, ou se passer le président, cette cinquième roue au carrosse, comme disait autrefois M. Grévy. Le statu quo menaçait de se prolonger lorsqu'un sénateur de l'indécente, M. Jules Simon, dont nous ne pouvons que résumer l'éloquent discours, émit la solution suivante. Bien que volontairement démissionnaire, ou tout comme M. Grévy, paraître ne quitter qu'à regret son poste souverain, ce n'est après tout que pour des mésentendus dont il est assez peu responsable, qu'il est tombé dans la disgrâce du pays et que par suite nous lui avons témoigné quelques froideurs. Devant les graves difficultés, déclarées même insurmontables, qui se présentent, lieu ne serait-il pas d'écarter bien des scrupules ? Vain peut-être. Et ne nous souvenant plus que des longues et prospères années que nous devons à son gouvernement, de soumettre sa haute sagesse, l'embarras politique où nous nous voyons. Qui sait ? Alors que tous reculent, peut-être accepterait-il de se dévouer, lui, jusqu'au sacrifice de sa chère simplicité, pour affermir cette fois à jamais la République. Peut-être saisirait-il encore cette occasion suprême de prouver à la France à quel point elle s'est récemment abusée. Dans le cas où nous n'aurions pas en vain compté sur son désintéressement en cette circonstance, il va sans dire qu'en présence de ce service exceptionnel, la nation tout entière, en la sympathique indulgence qu'elle lui garde quand même, oublierait sans nul doute les griefs, d'ailleurs très vagues, qu'elle croit avoir contre lui, et dont certains divorces, au besoin, suivis de bannissement, suffiraient à faire disparaître les dernières traces. Par ce coup d'État pacifique, par ce 2 décembre permis, par cette diversion victorieuse, M. Jules Grévy redeviendrait possible. Et le Congrès apaisé, refusant d'accepter la démission des pouvoirs du président, celui-ci pourrait continuer d'occuper la charge qu'il aime jusqu'à l'expiration légale de son mandat. Ce discours, écouté par le Congrès tout entier avec la plus grande attention, a d'abord été suivi de quelques instants d'une sorte de comateux silence, tant la stupeur qu'il causa fut profonde. Bientôt, toutefois, une soudaine explosion de clameurs terribles, de trépillements, vociférations même, inexprimables, éclata. Les fameux cris d'animaux de la discussion du quorum se rénovèrent. Les interjections les plus triviales se sont croisées. Et c'est alors que le centre-gauche, effrayé de son œuvre, a fait brusquement volte-face et s'est montré d'une hostilité inconcevable au projet que lui-même avait présenté. Démarche inutile, inepte, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle insanité ? Au petit local, y a-t-il un médecin ici ? Mais jamais Grévy n'acceptera d'être un coronoïde. Un hypoglon de Rouen-Sual, Rivisi, Civic, Oval ou Bural, c'est pas sérieux. Nous retournons la démission promise. On ne veut plus de lui, d'ailleurs, même esprit. Ne rénovons pas le roi Lire. On ne discute pas avec l'absurde. Ne brusquons rien, tout s'arrange, n'agissons plus qu'avec maturité. Oui, tout s'arrange, tout s'arrange. Il maintiendra plutôt la résignation de ses pouvoirs. Qu'il a nullement résigné. Qui sait, on peut toujours tenter une démarche prémonitoire, officieuse, à l'effet de le pressentir, sur « Allons donc !» ou « Ce qui aimerait engendre !» Cette inqualifiable grossièreté a donné, pour ainsi dire, le signal à l'ouragan des onomatopées. Ouh, ouh, bouge, bouge, ha, ha, da, da, nia, nia, gaga, gaga, l'ours au rembarre à la lanterne. Nouvelle et cette fois immense explosion de cris, imitant, avec bonheur même, ceux de diverses familles, catégories et groupes de l'animalité. C'est-à-dire bubulant, grouinant, canquetant, colaillant, ucamérant, coquelicant, canardant, coucouant, crételant, frigotant, glougloutant, huissant, margotant, gloussant, stridulant, tirelant, trompettant et tuturébant. D'ailleurs, aucun rugissement. À ces paroles peu parlementaires, l'effroyable tumulte devint tel qu'on n'entend ni la sonnette du président de l'Assemblée, ni le rappel à l'ordre. Cependant, le calme s'étant graduellement établi, l'on a commencé à échanger les phrases syllabisées. Après une controverse générale à laquelle ont participé la plupart des commissaires, le débat s'est circonscrit et concentré entre l'un des ducs les plus écoutés de la droite et l'un des sénateurs notoires du centre-gauche. Nous nous bornerons à donner l'extrait ci-après de ce colloque saisissant.